Vous écoutez RTL.
Et à 8h48, c'est l'heure de l'invité d'RTL Matin. Et ce matin, Bernard Poirette, vous recevez Françoise Banaberger, directrice des Archives Nationales.
Madame Banaberger, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio ce matin. La grande collecte d'archives sur l'histoire des femmes commence donc ce samedi. D'abord une précision, seulement les femmes françaises ou toutes les femmes du monde?
Alors, les archives. Alors, c'est une initiative du ministère de la Culture pour toutes les femmes qui se trouvent en France, quelles qu'elles soient.
D'accord.
C'est pas une initiative mondiale. C'est
d'accord.
Pas partout
non,
dans le monde.
Mais vous auriez pu, ici en France, dire, écoutez, si vous avez des documents sur les femmes de Papouasie-Nouvelle-Guinée, on est preneur aussi.
Absolument.
Ah, vous êtes preneur aussi?
Ah oui, absolument.
Voilà, donc vous êtes preneur.
Tout ce qui est conservé par devers les hommes et les femmes aujourd'hui sur le territoire.
D'accord.
Concernant les archives des femmes,
d'où qu'elles viennent,
absolument.
Quelle que soit leur provenance.
Absolument.
Quel type de document vous intéresse particulièrement?
En fait,
ça peut être d'une variété incroyable.
En fait, c'est tout ce qui peut relever de parcours familiaux, de trajectoires individuelles. Ça peut être donc des correspondances, des écrits, des journaux, des autobiographies, des photographies, des témoignages oraux, des traces d'activités associatives, bénévoles, militantes. C'est tout ce genre de documents, en fait, qui recèlent et qui révèlent des parcours de vie, quels qu'ils soient. Par exemple, on a, ces derniers jours, plusieurs personnes ont pris contact avec nous. Donc, par exemple, c'était un homme qui pensait nous déposer des observations et des carnets provenant de l'arrière-grand-mère de sa femme, qui
oui.
était sage-femme au début du XXe siècle.
Et qui expliquait sa pratique professionnelle.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Ça va être une autre femme, c'est quelqu'un qui s'était investi dans le métier de la communication d'entreprise à la sortie de la guerre, ce qui n'était pas très, très, très banal.
C'était pas courant, oui.
Et qui, du coup, toute sa carrière a amassé des press-books en étant elle-même du coup militante d'une association sur la place des femmes au travail et donc en ayant elle-même une conscience de ce qui était en train de se passer
ouais.
et en ayant écrit une autobiographie, par exemple, pour ses petits-enfants, etc. et en ayant fait aussi des mémoires sur cette question-là. Et donc, c'est tout ce matériau-là qu'elle propose de nous déposer.
Donc, si je comprends bien, madame, les auditeurs qui nous écoutent, vous leur dites, ouvrez vos tiroirs, videz vos malles au grenier et trouvez-moi quelque chose.
En fait, ce que je leur dis, c'est que au-delà de l'histoire officielle qu'on peut trouver dans nos institutions, tout ce qui est histoire personnelle, tout ce qui est parcours familial ou individuel, parcours militant, fait partie du patrimoine national.
D'accord.
A de la valeur, une grande valeur. Et souvent, les femmes, on remarque que les femmes pensent que ce qu'elles ont reçu ou produit
ne
n'a
vaut
pas
rien.
De valeur, ne vaut rien et peut être détruit. Et on leur dit non, ne détruisez pas. Et si vous le souhaitez, venez enrichir nos collections pour renouveler l'écriture de l'histoire des femmes.
C'est
de
ça dont il s'agit. C'est l'avenir de l'homme, madame.
Absolument. Et puis
ça ne vous a pas échappé.
Et puis cette collecte des archives des femmes n'intervient pas par hasard aujourd'hui. Enfin, dans
alors,
cette
on va en parler
aujourd'hui.
Justement. Je voudrais juste faire une incise sur la famille de Simone Veil, qui est récemment décédée, comme chacun sait. Elle a donné quelque chose, cette famille de Simone Veil.
Elle n'a pas donné quelque chose. Elle a donné toutes les archives de Simone Veil sur l'ensemble de son parcours professionnel, enfin, depuis la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à ce que Simone Veil décide de se retirer de la vie publique. Et en fait, c'est 80 mètres linéaires, on parle comme ça souvent en archives parce qu'on parle beaucoup de masse,
mètre
ouais. linéaire, donc c'est quand même considérable comme production, qui a été d'ailleurs le premier fonds d'archives privé et mixte d'ailleurs, qui nous est arrivé sur le site de Pierrefitte-sur-Seine en 2012, donc c'est une belle...
C'est le nouveau site des archives
voilà,
nationales.
C'est ça notre siège, et d'ailleurs cet après-midi à partir de 13h, c'est sur le site de Pierrefitte-sur-Seine à Saint-Denis Université, qu'au-delà de l'accueil de tous ceux qui vont nous déposer et donner des qui seront d'accord pour nous rencontrer et déposer leurs archives, on a aussi toute une série de manifestations.
Madame,
et donc, les archives de Simone Veil, oui, sont rentrées et sont à la fois des archives révélant les activités publiques de Simone Veil, en tant que ministre, président de la Commission européenne, du Parlement, pardon, européen, mais également ces archives plus personnelles, qui, du coup, complètent parfaitement ces archives plus publiques
oui.
et nous révèlent dépend de ce qu'était cette grande personne à travers tous ses combats.
Qu'est-ce que vous allez faire avec ces tonnes de papiers qui vont vous tomber dessus, là? Vous allez en recueillir, hein, un maximum. Qu'est-ce que vous allez en faire? Un bouquin quoi?
On va d'abord les inventorier, ce qu'on appelle en faire un inventaire, ouais, pour pouvoir faire savoir à tous ceux qui le souhaitent que nous possédons des archives sur telle personne, sur tel parcours, etc.
Ouais.
Donc une fois que ces inventaires seront faits, seront mis en ligne sur notre salle des inventaires virtuels, ça attirera donc des gens qui auront envie de travailler là-dessus. On va donc aussi le faire savoir aux communautés de chercheurs et chercheuses dont on sait qu'ils s'intéressent à cette question, aux associations.
Les sociologues vont être ravis.
Hein, les sociologues, les historiens, enfin absolument plusieurs communauté. Après, on peut valoriser ça, c'est-à-dire que certaines de ces pièces peuvent être numérisées également, mises en ligne, avec évidemment l'accord de ceux qui les donnent ou les déposent. On peut également, derrière, faire peut-être, suivant une exposition, à terme là-dessus. Par exemple, sur les suites de la grande collecte de 14-18, à partir du 15 octobre, là, pour célébrer en fait 18, là, la fin de la guerre, on a eu 450 contributions et qu'on va... On fait une exposition virtuelle sur ces 450 contributions avec des bandes tactiles où on va inviter les 450 contributeurs, par exemple.
Une dernière question, Madame Banaberger. Cette collecte nationale à propos des femmes dure jusqu'à quand et quel est le mode d'emploi? Si demain, mon voisin trouve quelque chose qui lui semble intéressant pour vous, il va taper à quelle porte?
Alors, il faut bien comprendre que cette collecte, ce n'est pas aujourd'hui que tout va se passer, ça commence aujourd'hui, donc c'est une dynamique, c'est une date symbolique avec quelque chose qui s'enclenche derrière. On a aujourd'hui des choses qui nous sont déposées au titre de la collecte 14-18, donc 4 ans après, dire que c'est des mouvements en fait d'ampleur et qui durent en fait sur le temps, donc il est hors de question de dire que ça s'achève demain, au contraire. Et puis qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens prennent contact avec nous pour déjà avoir un dialogue, pour en fait discuter de ce qu'ils ont envie de déposer, comment les rassurer, trouver des modalités, est-ce qu'ils nous les donnent, est-ce que c'est les originaux, est-ce que c'est des copies, etc. etc.
D'accord.
Et les modalités ensuite de valorisation, de consultation, sur lesquelles ils gardent la main.
D'accord, c'est bien clair. Merci beaucoup Françoise Banaberger, donc directrice des Archives Nationales sur RTL ce samedi matin, puisque c'est le premier jour de cette collecte nationale des archives liées aux femmes. Et puis ça donnera peut-être dans quelques années une expo, voire plus, selon intérêt. Merci beaucoup et bon week-end à vous.